2000 ans sont passés et le cœur de la prière chrétienne n'a pas changé d'un iota. Quelle que soit sa confession, le croyant entretient à travers la prière une relation personnelle avec Dieu. Cette relation est également enrichie et soutenue dans la prière communautaire. La gestuelle et les rituels prennent alors toute leur importance. Dans l'Église orthodoxe, leur place est centrale, une place qui implique l'investissement de la personne dans l'intégralité de son être. C'est ce que nous explique Michel Stavroux, professeur de théologie des dogmes à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris.
Cette place, elle est tributaire d'une vision du salut qui concerne l'homme dans son intégralité, c'est-à-dire pas seulement dans son âme, mais aussi dans son corps. Et ça, je pense que c'est très important que l'Orient chrétien ait gardé une anthropologie qui fait une grande place au corps. Par conséquent, le chrétien orthodoxe intègre complètement sa corporéité, donc une participation du corps à la piété, ce qui signifie concrètement des poses non seulement d'agenouillement, mais de prosternation, avec de nombreuses signations. C'est l'association de la croix qui pour nous est vivifiante, pas simplement un motif de déploration face à la souffrance, mais aussi donc un motif de réjouissance face à la résurrection du Christ.
Difficile de trouver une unité de forme chez les protestants. Selon leur dénomination, les églises accordent au rituel une importance inégale, une place parfois réduite au minimum pour laisser libre cours à l'expression personnelle de celui qui prie dans sa relation avec Dieu. Mais selon Kurt Meder, pasteur luthérien de la paroisse Saint-Nicolas de Strasbourg, les rituels n'empêchent pas cette relation pour autant.
Je crois qu'il y a toute une tradition, il y a toute une expérience. Il y a des personnes qui ont été éduquées dans la prière au travers du rituel, et ils en ont besoin. Et puis il y a des personnes chez nous qui n'arrivent plus à rentrer dans ces rituels parce que pour eux, ils ne sont plus d'actualité. Et ils essayent de chercher quelque chose de plus moderne. Donc chez nous, les rituels sera en place assez souvent aussi par de la musique beaucoup plus moderne, par des nouvelles formes de culte, où l'expression est beaucoup plus libre. L'expression de la parole, l'expression du geste, l'expression corporelle, tout ça s'est introduit un tout petit peu dans les cultes et qui a un peu remplacé la vieille liturgie luthérienne qui, chez nous, n'a pas changé depuis le XVIIe siècle. Et puis la jeune génération d'aujourd'hui ne veut plus de cela, c'est pour ça qu'elle se tourne vers d'autres rituels. Mais les rituels, ils sont toujours là et ils n'empêchent pas la prière personnelle. Je dirais qu'ils nourrissent la prière personnelle. We lift up holy hands in the presence of the King of Kings and of the Lord of Lords. We
worship you. We worship you. La prière est un acte de foi, expression d'une relation avec quelqu'un que l'on ne voit pas physiquement, mais comment la séparer de la parole de Dieu ? Historiquement, les protestants y ont toujours été très attachés. Aujourd'hui, selon Kurt Meder, on ne peut pas pour autant parler de spécificité protestante.
Si on parle un peu de l'histoire de l'Église, c'est vrai. On peut dire que l'Église protestante est l'Église qui a mis en avant la parole de Dieu. Elle s'est beaucoup, beaucoup accrochée là-dessus. Il y a une authentique tradition de la parole de Dieu. Mais moi qui suis en contact avec beaucoup de frères catholiques et évangéliques et autres, je dirais qu'aujourd'hui, on retrouve cela autant dans les autres églises que chez nous. Mais aujourd'hui, c'est aussi un des points d'œcuménisme et de l'unité extrêmement fort. C'est un des points sur lesquels nous nous retrouvons de plus en plus, c'est cet attachement à la parole de Dieu qui nous pousse à la prière et à la conversion.
Côté orthodoxe, le chant de la liturgie prend une place considérable dans la prière. Hérité lointainement de la synagogue, il fait partie intégrante du cœur de la spiritualité et prend des formes particulières. Par exemple, l'absence d'instruments, puisque c'est la voix humaine qui doit célébrer le Dieu vivant. Selon la théologie orthodoxe, le chant liturgique existe pour répondre et correspondre au chant invisible des anges pour manifester le royaume de Dieu sur terre. Le culte des icônes, lui aussi central, remplit la même mission. C'est ce que nous confirme Michel Stavroux.
Dans l'Ancien Testament, il était bien précisé qu'il ne fallait pas vénérer toutes sortes de représentations de Dieu. Mais il y a quelque chose de radicalement nouveau qui est advenu dans le Christ. C'est que Dieu s'est fait pleinement chair. Il s'est incarné, il est devenu un homme parmi nous. Donc c'est ce mystère du Dieu fait homme qui est manifesté dans l'icône fondamentale, dans l'icône mère de toutes les icônes, qui est l'icône du Christ. Et donc vénérer une icône, cela veut dire faire passer à travers sa représentation le culte que nous avons pour le Christ, donc le faire passer par la médiation de l'icône. Ensuite, les saints eux-mêmes, ils ne sont rien d'autre que des images du Christ. Le culte des icônes, c'est une réelle affirmation de l'incarnation de Dieu. Refuser la vénération des icônes, c'est d'une certaine manière, pour nous orthodoxes, considérer comme futile la réalité de l'incarnation divine.
La beauté sauvera le monde, fait dire Dostoïevski au prince Michtine dans L'Idiot. L'art en est l'instrument, s'entendra-t-il répondre ? Une citation qui peut nous permettre de comprendre le faste qui règne dans les églises orthodoxes. Au même titre que le chant de la liturgie ou le culte des icônes, la mission de l'esthétique est divine et missionnaire.
Puisque la liturgie a pour fonction de manifester la présence du royaume de Dieu sur terre. C'est pourquoi toutes les célébrations liturgiques dans l'Église orthodoxe sont très fastueuses. On fait intervenir non seulement les vêtements liturgiques sont particulièrement brillants, également on a les odeurs avec l'encens, on a les chants, on a les icônes. Donc on a vraiment une participation, une expression de la joie d'entrer, même de manière fugace, dans la vision du royaume de Dieu. Vous savez, les envoyés de l'empereur Vladimir de Russie au Xe siècle avaient parcouru différentes contrées, et puis ils sont allés en Orient à Constantinople, et ils sont rentrés chez le prince Vladimir en disant « Nous étions à la liturgie à Sainte-Sophie, et nous ne savions plus si nous étions sur terre ou au ciel ».
A l'inverse, les lieux de culte protestants sont dépouillés d'images ou de décorations, une réalité qui prend sa source dans les évangiles.
C'est le choix de la simplicité. Le Christ a été reconnu dans sa pauvreté et non pas dans sa richesse. Et que le Christ est venu pour sauver les pauvres, les malades, les faibles. C'est un choix de rester humble et petit et de ne pas afficher justement la grandeur, la richesse, l'or et tout cela. C'est un choix que les réformateurs ont fait et ce choix-là, on le retrouve aujourd'hui encore dans nos églises. Moi, je crois que plus c'est simple, plus c'est humble, plus nous serons dans une proximité avec celui qui est venu comme le sauveur simple qui veut être proche des hommes. Pour moi, il y a aussi une dimension de la souffrance des hommes dans la simplicité. Parce que dans l'extrême dépouillement, il y a aussi cette question que nous sommes dans un monde souffrant et que ce Christ est venu rejoindre ce monde souffrant et qu'il n'est pas venu pour exercer un autoritarisme et qu'il est venu pour nous apporter la paix, la joie et la compassion.
Entre protestants et orthodoxes, les traditions, les rites, les manières de prier diffèrent, mais le cœur de la prière demeure le même. Quelle que soit leur appartenance, les fidèles ont le même projet de vie, porter Dieu aux hommes. Quelle que soit leur confession, ils ont tous le même but ultime, dans la grâce du salut, ne faire plus qu'un avec le Christ.